Bonsoir, c'est Jean-Marie Marcos pour Radio Axe. Et bien ce soir, pour mon émission, ma nouvelle émission Invitation au bonheur, j'invite quelqu'un que je connais depuis quelques temps maintenant. Je l'ai connu à travers d'abord le groupement des entreprises des boucles de Seine. J'ai appris à la connaître, j'ai appris à l'apprécier. Et je l'ai rencontré aussi, et je la rencontre aussi tous les jours parce que nos enfants vont dans la même école. Donc nous avons tous les jours notre réunion à la grille de l'école où nous échangeons beaucoup sur la famille, les enfants, l'éducation, le bonheur bien sûr, et aussi nos métiers puisque nous sommes aussi partenaires, nous travaillons ensemble et nous travaillons souvent pour les mêmes clients. Et ce soir, mon invité, c'est...
Christine.
C'est Christine Vaillant, mon invitée. Et donc, Christine, ce soir, l'idée, c'est de partager, tous les deux, sur le thème du bonheur. Alors, le thème du bonheur, c'est un thème qui est très, très large. Chacun a sa propre définition. Et c'est ça qui m'intéresse. Et finalement, toi, ton bonheur, il ressemble à quoi ?
Alors, mon bonheur, c'est surtout les autres. C'est être avec les autres et partager des moments privilégiés avec les autres.
Et dans les autres, tu mets quoi ? Tu mets qui ?
Toutes les personnes, bien sûr, la famille, les gens qui m'ont cher, les plus proches, mais aussi toutes les belles rencontres que je peux faire. Donc ça peut être voilà nos fameuses réunions du matin, des gens que je connais peu, mais avec qui j'ai plaisir à échanger. J'irai l'être humain dans son ensemble, enfin rencontrer des gens. C'est pour moi, c'est voilà quelque chose qui m'apporte beaucoup de plaisir.
Et si tu devais te définir, toi, par rapport au bonheur, qui es-tu par rapport au bonheur ?
Qui je suis ?
Oui.
Peut-être parfois un lien entre les gens. Une espèce de fil conducteur.
Alors elle dessine avec sa main un cercle qui passe assez mal à la radio. Mais en effet, donc ça veut dire que si le bonheur, c'est la relation, alors toi, tu es le lien dans cette relation-là ?
J'essaye.
D'accord. Ok. J'avais une définition que j'aimais beaucoup aussi, c'était pour parler aussi des métiers qui aident les personnes à se sentir mieux dans la vie, c'est d'être un trait d'union comme les traits d'union entre le bien et l'être. Et je trouve que c'est joli aussi.
Oui,
et donc, quel serait ton trait d'union, toi ?
Un mot avec un trait d'union, tu veux dire ?
Pourquoi pas ? Ou dans ton métier, tu crées une union, un trait avec qui, avec quoi ? À quoi ton métier peut servir ? Tu nous as pas parlé de ce que tu fais comme métier, et c'est très bien, parce que nous, on n'est pas forcément défini par notre profession, on est défini d'abord en tant qu'individu, en tant que personne, même pas en tant qu'état civil, en effet, c'est le hasard qui nous fait naître ici ou ailleurs, à telle époque, ou avec dans tel milieu social. Donc j'aime bien qu'on se définisse par rapport à ce que l'on aime, par rapport à ce que l'on est, et peut-être après, on peut parler de sa profession. Et donc, dans ton métier, la relation, tu la fais comment ?
J'essaye de créer des relations entre les gens. C'est-à-dire que, effectivement, je peux rapidement dire ce que je fais. Notamment, il y a quelque chose qui me tient à cœur. C'est que j'accompagne des porteurs de projets dans le début de leur projet. Et on sait que quand on est entrepreneur, le plus difficile, c'est de ne pas rester seul. Et donc, de créer du réseau et de créer du lien. Et donc moi j'essaie surtout de leur donner envie d'être ensemble et de partager. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui, voilà, c'est un peu dans toutes mes relations, c'est un peu ça. C'est peut-être de faire se rencontrer des gens qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion de se parler ou de se connaître et peut-être d'univers différents. Voilà, c'est vraiment essayer de réunir des univers peut-être un peu différents.
Ça veut dire que nous vivons dans des mondes parallèles et que tu crées le lien entre les mondes parallèles. Tu fais des voyages interplanétaires
c'est
entre les
ça.
Différents mondes.
Non, mais l'idée, c'est qu'on a tous une éducation, un environnement, mais on a tous aussi des liens. Et même si on ne vient pas du même milieu, on a toujours des liens qui nous rapprochent. Donc ça peut être des liens par rapport à nos enfants, ça peut être des liens par rapport à notre activité professionnelle. Et l'idée, c'est justement... Une fois, une personne m'a dit, mais c'est ça que tu devrais faire comme métier, c'est mettre les gens en relation. Parce que souvent, quelqu'un me parle de ce qu'il fait, une autre personne me parle et je lui dis « Ah bah tiens, tu me fais penser, j'ai une personne qui fait ça. Peut-être que ça pourrait être intéressant que tu la rencontres. » Et ça, je le fais très naturellement. Donc voilà, c'est pour ça que je dis le lien pour moi entre les gens, c'est vraiment très important.
Eh bien, merci de ce partage. Je sais que tu travailles aussi dans le domaine de la formation. La formation, c'est du lien aussi.
Ah bah complètement. Là, quand je dis j'accompagne les porteurs de projets, pardon, c'est plus pour les former, bien sûr, mais sur les former sur les outils. Et justement, le digital est souvent décrié ces derniers temps parce qu'il éloigne les gens. Et moi, je ne le vois pas comme ça. pour moi, le digital rapproche les gens. C'est-à-dire que quand on peut l'utiliser à bon escient, au contraire, il permet de réunir des familles qui sont éclatées sur toute la France, par exemple, ou dans le monde. C'est aussi pouvoir garder contact avec des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de voir dans la vraie vie. Pour moi, c'est aussi phénomène de lien. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui fait sens pour moi.
Donc, le digital est au centre de ton rôle professionnel?
Oui. Je suis digital learning pour la version anglaise et je suis ingénieur pédagogique multimédia, mais je me définis plus pour ingénieur pédagogique puisque je fais aussi du présentiel.
Et la formation, la transmission, est-ce que c'est du bonheur aussi?
Ah oui, la petite étincelle dans les yeux quand on voit que la personne a compris qu'on lui vient de lui apporter quelque chose. Ah, c'est pour ça! Et là, ouais, là on a vraiment le sentiment de faire du bien aux gens et de se sentir utile.
C'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu n'as pas toujours fait ça dans ta vie professionnelle. Et puis tu as aussi eu un parcours aussi personnel aussi dans ta vie. Est-ce que la notion de bonheur pour toi a évolué avec le temps? Est-ce qu'elle a changé avec le temps, ta notion du bonheur?
Oui, parce que je suis une ancienne timide et je n'allais pas vers les autres. Donc quelque part, oui, il a grandi. Je pense que c'est aussi peut-être que aujourd'hui ce besoin d'être près des autres. Et c'est certainement nourri parce que justement, quand j'étais enfant, je n'allais pas vers les autres. Donc, cette besoin d'être entiré, de faire partie des autres, d'être avec les autres, d'aider les autres, je pense qu'il est démultiplié avec l'âge, parce que voilà, maintenant, aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau, j'ai plus peur du regard des autres, en fait. Donc, ça me permet d'aller complètement vers les autres.
Mais on peut être heureux aussi à simplement observer, regarder, ne pas être dans l'action, ne pas être dans la relation directe.
Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai vraiment besoin de partager avec les gens. J'ai vraiment besoin d'échanger. J'ai créé du lien. Ne serait-ce que d'engager bêtement la conversation dans une file d'attente. Voilà. Et ça m'amuse toujours de voir. Je prends toujours cet exemple dans un ascenseur. Les gens font la tronche, se parlent pas. Et l'ascenseur tombe en panne. Et là, il y en a un qui brise la glace, comme on dit, qui dit une petite bêtise. Et là, tout le monde se met à rigoler. Et là, il y a le lien qui se crée. Et pour moi, c'est ça la nature humaine. C'est aussi pour ça qu'on est fait pour être ensemble. Et le provoquer, je trouve que c'est tellement, tellement magique d'être le provocateur de ça. Je trouve ça magnifique.
On peut provoquer le bonheur, donc?
Oui, pour moi, on peut le provoquer, oui. Il faut aller chercher le... Il y a toujours une petite étincelle chez tout le monde, même ceux qui font la tête, mais vraiment jusqu'au plancher. Je suis convaincue qu'on peut réussir. Moi, c'est vraiment... Si j'ai quelqu'un dans ma formation, dans ma salle, qui arrive, qui n'a pas envie d'être là... Mon objectif, c'est vraiment qu'à la fin, ils ressortent avec la banane jusque-là. Sinon, je ne m'appelle pas Christine.
C'est ton défi.
Voilà, c'est mon challenge.
Tu dis, voilà, j'ai besoin de gagner celui-ci ou celle-là.
C'est ça, complètement.
As-tu remarqué aussi qu'en formation, bien souvent, les personnes qui sont les plus résistantes au départ, qui sont les plus, qu'on a le plus de mal à ramener, à convaincre, sont souvent les plus enthousiastes à la fin.
Et oui, et les plus reconnaissants surtout. Vraiment les plus reconnaissants. Et je pense qu'ils se rendent compte qu'on est allé chercher très loin et qu'on ne s'est pas arrêté au vernis qu'ils ont bien voulu nous mettre devant nous. Et je pense que c'est pour ça qu'ils nous remercient. Parce qu'ils voient qu'on ne s'est pas arrêté au premier niveau, quoi. On est allé gratter un peu.
Serais-tu pugnace?
Légèrement.
Elle ne lâche pas. Et c'est vrai que c'est vraiment important, moi qui fais de la formation aussi depuis de nombreuses années, c'est toujours aussi un challenge qu'on se donne quand on voit que quelqu'un voilà un petit peu du mal. Ou moi, par exemple, aujourd'hui, j'avais un élève qui était en contradiction systématique. Donc, chaque fois que je proposais quelque chose, c'était « mais non », etc. Et du coup, c'était intéressant parce que ça m'obligeait, moi aussi, à aller plus loin, à trouver aussi de l'argument. Et pour lui qui s'exprimait, combien ne le faisait pas. C'est aussi important d'être reconnaissant à ceux qui nous embêtent aussi un peu quelque part, qui nous ennuient, qui nous cassent notre beau, tout ce qu'on avait bien préparé. Mais ce sont eux qui nous donnent aussi la mesure de la satisfaction aussi des autres. Et quel plaisir quand à la fin, ils nous offrent cette reconnaissance. Quelquefois ce sont des mots, ça peut être des paroles, c'est aussi un langage non-verbal. Par leur corps, ils nous expriment combien en effet ils sont contents. Et ils soulagent aussi les autres. Ça fait du bien à tout le monde. Eh bien, on parlait d'élèves, on parlait d'enfants, parce que Christine et moi intervenons aussi dans le même centre de formation, pas en même temps, mais en tout cas, voilà, donc on a aussi une expérience commune de jeunes gens que nous accompagnons. Et justement, puisqu'on parle de pour puisqu'on parle de jeunes, puisqu'on parle aussi d'enfants, d'éducation. Moi, j'aimerais peut-être faire un petit retour dans ton histoire personnelle. Et as-tu un souvenir de ce qui te rendait heureuse lorsque tu es une petite fille, lorsque tu avais, je sais pas, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, l'âge de ta fille, Chloé, par exemple, que je connais bien?
Alors, c'est évident. C'est être avec mes frères et aller à la patinoire. Mes frères étaient foot patin à glace. J'ai toujours été très nulle, moi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et eux passaient leur week-end à la patinoire, donc ils avaient tous leurs copains à la patinoire. Et le fait d'être invité, c'était un privilège qui m'emmène. Donc j'avais effectivement quasiment l'âge de Chloé, j'avais entre 8 et 9 ans. Et mon frère venait d'avoir son permis, donc il avait une Renault 17 orange, parce qu'on était dans les années 80-70.
Donc il y avait quand même au moins une dizaine d'années d'écart.
Oui, il y avait 12 ans avec mon grand frère. Oui. Et ça, c'est un souvenir quand il m'emmenait à la patinoire, d'être dans cette voiture avec mes deux frères, d'une fierté énorme et d'un bonheur immense, quoi, d'être tous les trois réunis. Et qu'ils me fassent partager surtout leur quotidien, parce que j'étais effectivement la petite dernière, et j'ai jamais été celle qu'on n'a pas envie d'emmener, au contraire. Ils étaient très protecteurs. Et très valorisateur par rapport à moi. Et donc ça, c'était vraiment un privilège. Et puis, j'étais la petite mascotte. Donc, c'était sympa. Voilà.
Alors, du coup, si tu permets, moi, ça m'évoque un souvenir, mais qui est tout à fait du même acabit, parce que moi, je me souviens de mon frère qui a 7 ans de plus que moi et qui m'a emmené pour la première fois au cinéma voir un film d'Astérix et qui s'ennuyait profondément et qui me le faisait vraiment bien savoir. Donc, Richard, si tu écoutes cette émission, sache que je m'en souviens toujours. Eh bien, oui, c'est intéressant de savoir qu'en effet, on a une notion de bonheur qui est différente quand on a 7 ans, 8 ans, 9 ans. On est surtout dans une compréhension de l'importance d'être là tout de suite dans l'instant présent. On n'est pas pollué par le passé, on n'est pas pollué par le futur. Et c'est ça aussi qui donne à la fois cette inconscience, cette insouciance, mais ce bonheur aussi de l'enfance, qui oublie très vite finalement les difficultés, et qui ne se projette pas, parce que quand on demande, on dit « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», c'est une question qui ne veut rien dire en fait pour un enfant. Il parle souvent de ce qu'il connaît, il connaît très peu de choses, le travail de ses parents par exemple, mais ça ne veut pas dire grand-chose pour lui. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de revenir à ce moment-là. Et justement, cette petite fille de 8-9 ans qui partait avec ses frères faire du patin à glace et qui était tellement heureuse d'être intégrée dans leur monde de grands, etc., et de partager ce plaisir. À quel moment tu te reconnectes à cette petite fille? À quel moment tu te reconnectes avec ton enfant intérieur?
Assez souvent. Et très clairement, si je peux faire un parallèle, c'est le jour de mon mariage. Le jour de mon mariage, je me suis vraiment dit, il faut que t'en profites de chaque minute. Alors, comme tu me connais un peu, tu sais que je suis quelqu'un qui organise très bien les choses. Et donc, tout était bordé. Et donc, une fois que tout était bordé, que j'avais délégué l'ensemble des choses, j'ai dit, maintenant, c'est mon moment. Et je me suis plus occupée de rien. J'ai juste vécu le moment présent. Et j'ai vraiment bien profité de la journée de mon mariage. Et j'ai une photo, notamment avec mes deux frères, où je leur ai demandé de faire la chaise. Alors, je sais pas si les auditeurs connaîtront ce que c'est la chaise.
Oui, on croise les bras sous la personne et puis on la soulève comme
voilà.
Ça.
Voilà. Et donc, j'ai donc une photo avec mes deux frères qui me font la chaise comme quand j'étais petite. Et donc, j'ai vraiment fait le parallèle à ce moment-là. Et c'est vrai que, c'est des moments, moi, les moments de mon enfance, c'est aussi des moments d'ancrage positif où je me les remémore. Voilà. C'est vraiment, ça fait partie de ces ressources qu'on peut avoir pour se sentir bien.
Tu sais te reconnecter à ces ressources assez facilement?
Oui, je trouve, oui. Ça peut être par des chansons aussi, tu vois. C'est des moments qui naturellement me font retourner dans le passé à cette époque-là.
Alors, tu as utilisé le terme technique, en fait, ce sont en fait des ancrages, hein, c'est-à-dire qu'on associe une sensation corporelle avec une émotion. Et lorsqu'on va revivre cette sensation corporelle, lorsqu'on va revivre cette émotion, eh bien les deux vont revenir ensemble et on peut retrouver une situation qu'on a appréciée. Donc c'est pour ça que certaines chansons nous font fondre le cœur, parce qu'on se retrouve automatiquement dans l'âge où cette chanson nous avait procuré tant de bonheur, tant de plaisir, etc. Ça peut être aussi des odeurs, la fameuse Madeleine de Proust, ça peut être aussi des sensations plutôt tactiles, tout d'un coup on touche un vieux pull, et hop, tout d'un coup on est avec sa grand-mère, etc. Donc voilà, toutes sortes de sensations, c'est important de pouvoir aussi s'y référer. Et ce sont aussi des techniques qu'on utilise aussi en, en formation, un peu en PNL, mais qu'on utilise aussi en coaching, pour justement pour venir avant un élément qui peut être traumatisant ou difficile dans la vie. On peut du coup aller rechercher un élément auparavant, lorsque on était encore bien, et s'y accrocher à travers une gestuelle, à travers une odeur, à travers une image, par exemple. Et c'est très utile d'utiliser tous ces éléments. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'émerveille le plus ? Qu'est-ce qui te met en joie ?
J'ai envie de dire, parce qu'elle n'est pas loin de moi, ma fille, ses réactions, ses sensations, c'est justement ce... Comme tu le disais, ils vivent la vie au jour le jour, donc ils s'émerveillent de plein de belles choses, et à travers elles, tu te rends compte, voilà, des petits bonheurs qui existent au quotidien, et de la voir évoluer.
Alors oui, je la connais aussi. Je dirais elle est girafe d'honneur dans mes ateliers, puisque Chloé a suivi beaucoup de mes ateliers du bonheur, et c'était un grand plaisir aussi de partager avec elle et de la voir danser, partager et nous parler de son fameux lapin. Eh bien, on verra plus tard, parce que petit scoop, petite nouvelle. Ben oui, en effet, si vous n'avez pas écouté l'émission de la semaine dernière, eh bien, vous pouvez revenir et la réécouter en podcast sur mon site, puisque la semaine dernière, mon invité était Chloé, et donc Chloé, bien la fille de Christine que je reçois aujourd'hui. On parlait d'émotions justement avec tout à l'heure avec toi, en parlant de ces musiques, de ton mariage. Eh bien, je vous propose maintenant, chers auditeurs de Radio Axe, d'écouter un titre, et pas n'importe lequel, puisque ce titre, il a été choisi par Christine. Et donc ce titre, c'est un titre de Billy Idol, et c'est Dancing with Myself. Musique.
It'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. I'm dancing on with myself. When there's nothing to lose, so there's nothing to prove. When I'm dancing on with myself. It'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself.
Et bien, après ce titre choisi par Christine, petite question. Tu aimes beaucoup la musique, tu as beaucoup de titres auxquels tu aurais pu penser. Pour quelle raison tu as choisi celui-ci et pas un autre ce soir pour partager avec nous, les auditeurs de Radio Axe ?
Comme tu dis, j'aime bien la musique, j'aime bien danser. J'ai fait 25 ans de danse, donc la musique fait partie de moi, et surtout la danse. Et dans mon jeune temps, quand j'allais en boîte de nuit, je dansais beaucoup. Et ce titre, quand je le mets, quelle que soit l'action que je fais à ce moment-là, je ne peux pas m'empêcher de danser. C'est irrépressible. Ça me fait lever et il faut que je danse sur ce titre-là. Donc ça m'apporte beaucoup de bonheur, puisqu'effectivement, ça me renvoie à mes années boîte de nuit, mais aussi mes années de danse. Donc c'est toujours un plaisir.
Alors, tu avais pris des cours de danse pendant toutes ces années-là ?
Alors, j'ai commencé la danse, j'avais 4 ans, et j'ai commencé à aider, j'étais pas vraiment prof, hein, j'aidais l'animatrice. Quand j'ai commencé, j'ai dû avoir 14 ans. Donc je donnais les cours de danse en même temps qu'elle. Donc du lundi au vendredi, donc 3 heures le mardi. Donc j'ai passé mon temps à la danse et ma mère était avec moi puisqu'elle faisait les costumes de danse. Donc c'était une affaire familiale. Mon père était à la buvette quand on faisait les concours. Donc ça c'était une histoire de famille. Donc on passait nos soirées à la danse.
Donc vous étiez à la barre et lui au bar, c'est ça hein.
C'est ça, exactement.
Si je peux me permettre ce jeu de mots. Hein. Et donc c'était quel type de danse ?
Alors ça s'appelait de la danse rythmique. En gros, c'est un peu de la GRS sans les agrès, sans les rubans, même si on faisait du ruban et du ballon et un peu de cerceau. C'était un peu la base de la GRS en fait. Mais on déclinait aussi ça pouvait être des danses folkloriques. On a fait le French cancan, on a fait des danses russes, on a fait voilà.
D'accord, ça permet une ouverture sur tout type de musique en
voilà,
fait. C'est pas
d'accord.
Et aujourd'hui, si tu devais prendre des cours de danse, ça serait quel type de danse ? Tu aurais envie de danser sur quel environnement musical ?
Moderne jazz, j'aime beaucoup.
Moderne jazz, ok. Tu vas voir des spectacles de danse ?
Alors, j'aimerais beaucoup voir du classique. Pour la petite anecdote, il va me maudire quand il va entendre. Mais je suis allée voir la danse classique, qui n'est pas forcément ce que je préfère dans la danse. J'étais voir Casse-Noisette, aussi pour la musique classique, qui est plus la tasse de thé de mon mari. Et le problème, c'est que, comme je dis aujourd'hui, il m'a cassé les noisettes pendant tout le temps. Parce qu'en fait, il n'arrêtait pas de critiquer la danse. Et voilà. Et du coup, j'ai moins profité de la danse. Je suis allée voir des comédies musicales, ça que j'aime beaucoup. Donc, je serais plus, si je devais aller choisir, tu vois, ça serait plus une comédie musicale ou des spectacles. Un spectacle que j'aimerais beaucoup voir que j'ai pas pu voir enfant, c'est Émilie Jolie, qui est aussi un très beau spectacle, qui allie la danse et le chant. Voilà. Donc, j'ai pas vu beaucoup de spectacles de danse, mais j'aimerais beaucoup. Oui.
Donc voilà, Philippe, si tu nous écoutes, tu auras le droit à une petite danse personnelle pour rattraper ce petit coup de pied. Eh bien, on va s'approcher maintenant un peu de la fin de notre émission, mais j'aurai encore quelques petites questions à te poser. J'ai plein de choses à te poser comme questions, c'est pour ça que nos discussions sont interminables. Mais peut-être que je vais inverser l'ordre et te demander, et toi, aurais-tu une question à me poser ?
Oui, j'en ai une.
Ah.
J'aimerais savoir, parce que... Donc je connais bien Jean-Marie, c'est quelqu'un qui est toujours jovial, toujours accueillant, toujours bienveillant. Et la question qui me brûle les lèvres, c'est comment tu fais quand ça ne va pas ?
Comment je fais quand ça ne va pas ? Eh bien quand ça ne va pas, comme tout le monde, ça ne va pas. Et donc dans ce cas-là, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à m'isoler, j'ai plutôt tendance à ruminer un petit peu. Je deviens assez assez pénible, c'est-à-dire tout m'agace. Je peux devenir très tout à fait perfectionniste, alors que le reste du temps je me fiche complètement de ce qui se passe. Mais voilà, donc bon, voilà comment je fais. Alors par contre, comme je pense bien me connaître maintenant, ce qui se passe c'est que je détecte assez rapidement que il y a une dérive et que du coup je suis mal à l'aise dans cette situation-là. Donc, je fais une espèce d'arrêt sur image, en fait. Je reviens à quelque chose que j'ai appris très tôt, parce que moi, j'ai appris le yoga, j'avais 16-17 ans. Et donc, j'ai des espèces de réflexes qui font que, voilà, dès que ça va pas, j'ai automatiquement des postures qui me permettent de revenir, de me recentrer, de respirer, de me concentrer sur la respiration. Je pratique plutôt la méditation en pleine conscience, où on va retrouver le même environnement, où on arrive à se dépolluer des idées qui viennent noircir notre existence à travers simplement un contact avec le sol, avec le corps, avec ce qui se passe réellement là dans le ici et dans le maintenant. Et voilà, à travers un peu de yoga, surtout de respiration, à travers la méditation, j'arrive à calmer cette colère, cet énervement ou cette angoisse ou cette inquiétude ou cette tristesse qui peut être passagère. Je l'accueille en fait. Ce que je fais, c'est que je n'essaye pas de lutter contre. J'essaie de comprendre en disant finalement qu'est-ce qui me manquerait là pour retrouver mon plaisir de vivre, ma joie d'être tout simplement. Et voilà, une fois que je comprends que voilà, ben c'est parce que j'ai pas pu avoir la discussion que je voulais avec quelqu'un, c'est parce que j'ai eu une déception, etc. Et une fois que je commence à mettre des mots dessus, alors ça va mieux. Et comme ça va mieux, ben j'avance finalement, puis je me rends compte finalement, ben c'est pas si grave que ça, ou bien peut-être il suffit d'attendre. Alors j'ai beaucoup de patience. Alors en effet, si à un moment donné il y a une situation qui me convient pas, j'attends. J'attends comme la girafe qui est très lente. Je parle beaucoup de girafe et de chacal dans mes formations sur la communication non violente. Donc voilà, je sais attendre un meilleur moment pour avoir cette conversation ou pour continuer. Et j'ai cette capacité à regarder plutôt devant que derrière. Donc voilà comment je peux répondre à ce type de questions. C'est vrai que il y a vraiment quelque chose moi qui est lié à la volonté, mais qui est lié d'abord à l'imagination, qui est de dire voilà, je me projette. En disant, de toute manière, ça ira mieux après, ça peut pas être pire, etc. Donc, je me dis, voilà, ce qui se passe sur le moment, ce que je vis sur le moment, c'est pas agréable, mais ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Donc, je pense à ce qui va y aller après, et à partir du moment où je me projette, déjà, ça va mieux, parce que ça relativise ce que je suis en train de vivre pour l'instant. Lorsque je me suis intéressé pour les chroniques du bonheur de l'année dernière à Émile Coué, grâce à un de mes amis Luc Tessier-Dorfeuille, qui m'a un peu introduit auprès de cette approche de ce vieux monsieur si moderne, Émile Coué, j'ai retrouvé exactement ça dans Émile Coué, avec le fait de dire la volonté, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, si tu veux, tu peux. Non, c'est pas vrai. Parce que quelquefois plus on veut et moins on peut, en fait, parce qu'on se met une pression terrible, on se met des objectifs impossibles et puis on se rend compte que finalement tout ne marche pas comme on le voudrait. Par contre, si tu imagines que c'est possible et que tu mets en plus la volonté, alors là tu pourras le faire. La volonté seule ne suffit pas. Par contre, je crois beaucoup à la puissance de l'imagination, je crois beaucoup à la puissance du rêve qui nous projette toujours vers un meilleur, vers un mieux vivre. Donc voilà, merci d'avoir posé cette question. Ça m'oblige moi aussi à réfléchir à ces sujets qui sont souvent si évidents qu'on ne met pas toujours des mots dessus. Je te propose une dernière petite question surprise avant de passer au compte. Et pour cela, on va changer. D'habitude, j'ai les petites cartes anti-Sava. Là, j'ai les mots du bonheur. C'est un jeu que j'ai créé avec 150 mots différents du bonheur. Tu vas tirer un mot et tu vas me dire en ce que ce mot t'inspire. Donc voilà, Christine tire une carte. Et sur cette carte, il est écrit
« Affection ».
Voilà. Alors, en quoi l'affection fait écho par rapport à ton idée du bonheur ?
Quelque part, l'affection, ça renvoie au bonheur. Quand tu donnes de l'affection aux autres, moi, quelque part, ça m'apporte du bonheur. C'est-à-dire que serrer ton enfant dans les bras, avoir un câlin avec ton conjoint, faire une accolade à un ami, enfin, tout ça, pour moi, c'est de l'affection. Et à part si t'es pas sincère, ça ne te procure pas de bonheur, mais si t'es forcément sincère, ça t'en procure.
Donc l'affection, c'est un ingrédient initial du bonheur.
Exactement.
Merci. Eh bien, merci Christine. Je vais clore cette émission avec le petit conte traditionnel que j'ai sélectionné pour toi aujourd'hui et qui s'appelle Le Sage. Et ensuite, nous écouterons un titre de musique de ma propre playlist du bonheur. Alors d'abord le conte, Le Sage. On raconte que dans un ancien royaume vivait un homme qui était connu de toutes parts pour sa grande sagesse. Au début, il ne conseillait que sa famille et ses amis proches. Cependant, sa renommée avait tellement grandi que le souverain lui-même l'appelait fréquemment pour le consulter. Tous les jours, de nombreuses personnes venaient recevoir ses conseils avisés. Le sage remarqua pourtant que certaines venaient toutes les semaines. Elles lui racontaient toujours les mêmes problèmes et écoutaient les mêmes conseils, mais ne les mettaient jamais en pratique. Tout cela avait formé un cercle vicieux. Un jour, le sage réunit tous ces gens qui le consultaient fréquemment. Il leur raconta ensuite une blague très amusante qui les fit tous éclater de rire. Après cela, il attendit un moment et refit la même blague. Il continua à la raconter pendant 3 heures. Tous étaient désespérés. Le sage leur dit alors, « Pourquoi ne pouvez-vous pas rire plusieurs fois de la même blague, mais être capable de pleurer 1000 fois pour le même problème ?» Voilà mon petit conte. Il t'évoque quelque chose ?
Bah, il m'évoque effectivement que c'est plus facile de se plaindre. On voit toujours beaucoup de gens qui relèvent les choses négatives, mais rarement qui prennent la plume pour féliciter, encourager, remercier. C'est très rare. Moi, c'est quelque chose que je remercie systématiquement les gens qui, justement, ont le courage de dire les choses positives plutôt que de dire les choses négatives.
Eh bien, merci. Et on va terminer, justement, avec un morceau de ma playlist du bonheur. J'espère qu'il va te plaire, parce que tu parlais beaucoup du cadre qui te rassure pour ensuite être libre. Eh bien, moi, je vous propose d'écouter Stevie Wonder avec I'm Free. Et donc, chers auditeurs de Radio Axe, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même radio avec une nouvelle invitation au bonheur et un nouvel invité. À très bientôt et d'ici là, soyez heureux. Running through me.